Alors, ce que je vous propose ce soir, j'aurai le temps de développer davantage par la suite, c'est une version réduite et pas seulement expérimentale pour moi, parce que je n'ai jamais fait avec autant de gens, d'un projet que je mène habituellement dans des structures pour élèves qui sont en décrochage scolaire. Je salue le passage de Monique Prodon, que je remercie beaucoup d'être là ce soir, qui m'accueille dans ses classes depuis 4 ans, sur laquelle ce serait bien. Pour moi, c'est expérimental, comme j'ai dit, donc j'aurai l'occasion de voir en même temps que vous comment ça se passera. Et par ailleurs, de vous en parler davantage par la suite. Pour commencer, j'ai de la chance, je ne m'attendais pas à ça, mais on m'a mis un beau sapin pour vous lire ma poésie. Donc, ma mère, si j'ai bruit en moi, s'assoit, sa velure livide dans les nues, complètement jusqu'à la hure, j'entre au miroir et me souviens d'un oslo, du chou, de sa pelure en gloire, cume, écume, épaule, plume. Alors sa piole, où sont les chattes? Elle a le bouc exhume, mère, la ta velure, le vol, le si en dos, que fut ton dos. J'ai choisi ce poème parce que j'y comprends absolument rien. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce soir. Et la raison pour laquelle je choisis un poème auquel je ne comprends particulièrement rien, et je vous dis, je vais les lire dans des classes pour élèves qui sont dans une situation de désamour plus ou moins chronique avec l'école, c'est parce que je pars du principe qu'un poème aussi incompréhensible l'est pour tous, et qu'au fond, contrairement à ce qu'on pense habituellement, il n'y a pas plus démocratique qu'un texte comme celui-ci. En revanche, il faut réfléchir à comment s'y prendre, évidemment. Merci Florent de t'avoir permis de... Voilà, donc j'ai fait un petit digest de quelque chose qu'on connaît tous à peu près, ou de très loin. Ces fameuses fours des collections Poche Poésie chez Gallimard, qui finalement, Gallimard, le grand éditeur, qui véhicule que, quelque part les représentations les plus majoritaires au niveau de la poésie. J'y vois la quintessence de tous les clichés qu'on a habituellement sur la poésie qui fait peur, à la fois le fait de cette omniprésence du blanc, l'idée que la poésie ce soit forcément l'essentialité du langage, quelque chose qui ne se paye pas de mots, qui ne soit pas dans le... soit au-dessus du langage courant, du bavard, de multitude, etc. Et surtout ces figures de poètes, alors je ne sais pas à qui il faut attribuer, est-ce que c'est aux poètes, est-ce que c'est aux personnes chez Gallimard qui font la sélection, mais c'est absolument impossible, en tout cas très difficile de trouver des figures de poètes joyeux. Ouais. Ça, c'est systématique. Bref, donc le poète est un torturé qui s'ennuie, qui se suicide à 30 ans, donc s'il n'arrive pas à se suicider à 30 ans, il vit jusqu'à 7 ans. Ouais. Tout ça, ça donne que la représentation est plus véhiculée face à la poésie, à moins qu'on s'en désintéresse carrément, ce qui est tout à fait licite. C'est que soit on est dans l'extase pure et dure, soit on est terrorisé. Je pense qu'au contraire, il faut partir du principe qu'il faut mettre en place certaines permissions qu'on se donne et oser rentrer dans un dialogue avec ces textes qui n'est pas celui qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà, ça c'est. J'ai cherché si vous tapez Stel sur Google, c'est ce sur quoi vous tombez. À mon avis, c'est un peu la représentation, ce à quoi me fait penser la représentation habituelle pour les poèmes. D'ailleurs, ça se passe de son monde. Essayons d'aller vers ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, il y avait cette collection très célèbre que, en tout cas, les adolescents et adolescentes de l'époque connaissent sans doute, les livres dont vous êtes le héros. Donc, pour resituer, c'est des livres qui marchent sur l'histoire des fictions parallèles à un branche multiple, où le lecteur a plusieurs nœuds d'histoire, peut choisir telle ou telle suite fiction composée, et l'histoire se compose avec lui. Donc, je vous propose ce soir qu'on fasse un poème dont vous êtes le héros. Allons dans ce sens-là. Voilà. Donc, une référence dans l'enseignement, mêmes années, les années 90, je pense. Peut-être que c'est des années qui étaient très concernées par la question du lecteur, c'est Daniel Pennac, comme un roman, un fantastique que je conseille, reconseille, peut-être qui est déjà très connu, il y a pas de plus. Il dit en matière de lecture, nous autres lecteurs, nous nous accordons tous les droits, à commencer par ceux que nous refusons aux jeunes gens, nous prétendons initiés à la lecture. Donc j'ai dit que je ne voulais pas faire scolaire ce soir, je ne suis pas un prof face à vous. Et évidemment, je rends compte là du fait de la situation dans laquelle je suis habituellement. Pennac en tire une liste qui est devenue très célèbre, la liste des droits du lecteur. Alors, ici, le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à voix haute, le droit de nous taire. C'est bien des très beaux préceptes, et effectivement, il y a raison. Souvent, les profs ne devraient pas oublier que ces choses qui s'autorisent au quotidien, ils devraient commencer à les autoriser à leurs élèves, plutôt d'attendre que leurs élèves soient devenus de bons lecteurs pour se donner ces droits-là. Mais si Pennac a raison de dire que, malheureusement, souvent les profs ne donnent pas tous les droits que devraient avoir les élèves, même les profs eux-mêmes ne se donnent pas toutes les permissions, parce qu'on est tous conditionnés par certains interdits ou certaines fictions qu'on a dans la tête, représentation par rapport à la lecture, qu'il va falloir faire sauter, et je me suis permis de donner quelques ajouts à cette première liste-là, des principes qui, à mon avis, sont nécessaires pour qu'on entre dans ce que je vous propose ce soir. Donc le droit de décréter ceci n'est pas un texte, face à un texte comme celui-ci, autrement dit, on n'est pas obligé de chercher à tout prix à lui donner un sens global ou à le prendre comme un texte lisible au sens traditionnel. Le droit de se glisser entre les blancs et hors la page, rajouter, combler, faire proliférer, réécrire, tâtonner, recommencer, s'inspirer ou refuser. Si vous avez des questions, vous pouvez les avancer. Le droit de noircir des pages, ça c'est une belle expression que Huysmans, d'après Huysmans, Balzac disait qu'il noircissait des pages avant d'écrire, avant de commencer à écrire au sens éminent du terme. Le droit de noircir des pages et ne pas se laisser couper la parole par l'autorité du texte. Le droit de prendre son ressenti, son impression, ses projections et tentatives, l'effet du texte sur soi, comme la réalité vivante du texte, comme le cœur et l'origine de l'expérience esthétique. Le droit que s'est donné l'auteur en premier face à un texte comme celui-ci, de ne pas nécessairement comprendre tout ce qu'on écrit soi-même et y trouver néanmoins une valeur. Voilà ce que je vous propose de vous donner comme droit ce soir. Alors, ça c'est Christian Prigent, donc l'auteur du texte que je vous ai lu auparavant. Ça n'a pas été facile parce que sur Google, elle m'a entrepris des photos du type Poche Poésie Gallimard. J'ai réussi à trouver une photo où il sourit, il est accompagné dans mon rêve, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir la montrer. Prigent, c'est un auteur français de poésie contemporaine, qui écrit des choses plus accessibles que celles-ci aussi, beaucoup de théories, comme tous les poètes depuis un siècle, qui est un poète par ailleurs que j'aime beaucoup. J'ai choisi d'entrer dans un de ses textes, dans l'infinité des textes que j'aurais pu choisir, j'ai choisi celui-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce poème précis? J'ai fait comme Prigent lui-même, pardon, d'un autre poète contemporain qui lit. J'ai extrait au hasard de la bibliothèque un livre de Jules Stéphan, peu importe qui est Jules Stéphan, ça prend trop de temps. C'est tombé sur Élégiade, tout aussi arbitrairement, j'ai choisi de lire la première section. J'ai fait pareil. J'ai pris un de ses livres, j'ai ouvert, j'ai cherché, et dès que je suis tombé sur quelque chose de très trapu qui me paraissait pas mal pour ce soir, je me suis arrêté. Donc, pas d'autres explications. Et le but n'est pas de donner des explications précises. Est-ce qu'il y a un dia encore? Alors, le dia, c'est fini pour l'introduction. Je voulais être court, j'espère que je l'étais. Ça, c'est maintenant la version écrite du texte que je vous ai lu très rapidement avant, dans une version encore plus difficile, parce qu'à l'oral, c'est encore plus difficile à pénétrer. Pour les consignes, pour l'exercice, parce que maintenant, on va rentrer dans l'exercice lui-même. Alors, je vous ai proposé de vous mettre par groupe. Pourquoi ? J'ai réfléchi, donc j'adapte un peu les expériences qu'on fait habituellement dans les classes dont je vous parlais. Je me suis dit qu'à 40, ça tiendrait à peu près de l'impossibilité, parce qu'il n'y a rien de plus impressionnant que de prendre la parole à 40. Je voulais que tout le monde fasse quelque chose. Donc, d'où l'idée des sous-groupes, et l'idée ensuite de faire remonter petit à petit vers la collectivité ce qui sera ressorti. Donc, quant à moi, je serai du côté de l'ordinateur là-bas, et à partir de l'ordinateur, je projetterai au bout d'un moment les résultats de ce que vous aurez lu. Par groupe, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donnerai d'abord 2-3 minutes pour lire individuellement et pour essayer déjà de suivre la consigne globale de lecture qui est de ne pas de faire venir tout ce qui vous... faire venir tout ce qui vous vient à la lecture, du plus objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que je comprends par rapport à ce texte, jusqu'au plus subjectif, délirant et libre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'évoque de souvenirs, d'images, d'envie de réécrire, de prolongation, etc., sans hiérarchiser entre ce qui serait cadré objectif et ce qui serait subjectif, et libre, tout ce qui vous vient. Dans un deuxième temps, je pense que c'est bien d'avoir une petite phase préalable de préparation, par groupe de, je sais pas, combien vous êtes par groupe, vous avez 5 maximum, vous allez commencer à échanger et commencer à mettre en commun ce que vous êtes, raconté dans votre tête. Je ne vais pas dessiner moi, vous vous organiserez, on va faire vraiment l'autogestion au maximum, vous vous arrangerez pour qu'il y ait un secrétaire, une secrétaire, ou quelqu'un qui prenne note de vos échanges, puisque le but, vous aurez à peu près 10 minutes pour ça, le but c'est qu'ensuite, chaque groupe me fasse remonter une feuille qui garde la trace de ces différentes lectures. Donc je précise à ce stade, c'est très important, je dis que le but c'est d'avoir une lecture la plus libre possible d'abord, ne cherchez pas à viser une synthèse ou un accord. Vous pouvez avoir un ensemble de versions tout à fait différentes, multiples, ça ne me range pas, au contraire. De toute façon, dans la lumière qu'on a par rapport au temps que j'ai habituellement, quand on lit ensemble avec Noémie et ses élèves, on bosse sur 8-9 semaines, donc c'est une étendue de temps assez différente. Si on arrive déjà à mettre en commun tout ce qui émerge en une demi-heure, c'est déjà magnifique. Donc ensuite, après 10 minutes, groupe par groupe, je prendrai ou je demanderai d'amener ces feuilles-là. et je créerai un document qui intègre les différentes lectures des groupes pour que les autres groupes puissent prendre connaissance de ce qui s'est passé chez les autres et qu'on voit émerger petit à petit l'ensemble des choses qui partent à partir de ce qui est d'abord une impossibilité, à savoir ce texte que vous avez lu en premier et dont je rappelle que chaque fois qu'on va faire dans les 30 premières secondes, il est souvent. J'ai fait par ailleurs un petit dossier que je vais vous distribuer pendant que vous commencerez à vous mettre au boulot. Pour le moment, le texte est ici, donc je vous propose d'y aller maintenant. Et je vais passer vous donner les documents plus, dans lesquels j'ai mis une ou deux définitions de mots trop rares, ou une ou deux références que j'ai trouvées en tapant sur Google, sur des pistes qui me semblaient importantes, puisque évidemment, il ne faudrait pas qu'on soit arrêté. On le suffira après par le fait que simplement qu'on ne connaisse pas en ligne. Donc, bon travail, moi je me fais.
Depuis le départ, ça se Je donne juste une précision supplémentaire.
dans 5 minutes, je vais commencer à reprendre les textes dans les différents groupes. Ça veut pas dire que les groupes s'arrêtent et travaillent, on continue à écrire jusqu'au bout, et vous avez façon de papier pour continuer. Et je prends, et j'écrirai, je passerai le groupe, donc on peut vous mettre ensuite, quand j'ai des choses d'un coup,
Thank you. Thank you. Je te dis, je te dis. Et qui ont fait ça?
Bah, c'est les promoteurs, les professeurs de terrain,
qui paye.
Concrètement, j'ai vraiment essayé de reproduire la même chose que ce qu'on fait. La seule première différence, enfin, les différences, du coup, quand je les reproduis, c'est surtout que j'ai dû transposer, parce qu'habituellement, c'est une structure où il y a maximum 3 à 4 élèves par classe. Donc ça veut dire que le groupe que je fais là, au lieu d'être à côté avec l'écran, je suis avec eux, on est autour d'une table, et je prends la dictée au fur et à mesure, ce qui fait que je peux aussi corriger, on discute, c'est beaucoup plus en dialogue, c'est beaucoup plus vivant que ce qu'on a pu faire ce soir. Mais comme on était 40, comme j'ai dit au début, ce qui me paraissait le plus important, c'est que tout le monde participe. Et je pensais que si on devait le faire en direct devant tout le monde, le poème étant inhibant, et puis le simple fait de devoir s'exprimer en public l'étant aussi, j'avais peur que ça ne marche pas bien. Je me suis dit, du coup, bah, faisons ça partie.
Et comment réagissent ces élèves qui sont...
Alors, la première chose qui est systématique jusque-là, c'est qu'à chaque fois, ils sont interpellés par le texte. Et ils marchent. Le fait de leur dire, j'y comprends rien non plus, et allons-y ensemble, ça marche tout de suite. Ça, ils y croient tout de suite, et ça parle tellement à leur expérience, en fait. C'est tellement dans leur chair, en fait, le fait d'être le nul de service, je parlais simplement, que tout à coup d'avoir le prof qui est censé être celui qui donne les bons points, qui va dire en plus, ça part tout de suite. Et après, en fait, ils ont les barrières qu'on peut avoir des fois, en fait, plus on a de bagages techniques aussi et théoriques, des fois, face au texte, on est enfermé dans certaines habitudes, ces bagages, ils n'ont pas, puis ça va assez spontanément, ça va facilement. Et puis, ben. Je sais pas, ce qui marche bien aussi, c'est le fait qu'on arrive à faire l'année passée, on a fait une expérience sur 9 ou 10 séances finalement, je sais plus, où on a passé 10 séances de 45 minutes à chaque fois à relire et relire encore un texte pas plus gros que celui-ci. Alors ils disent des fois qu'ils ont ras-le-bol, évidemment. Je veux dire, ils continuent à jouer le jeu, alors que d'habitude, c'est une des principales difficultés qu'on rencontre en classe, c'est justement le fait de capter leur attention sur l'exercice et surtout de le faire si longtemps. Alors après, je ne lance pas des fleurs au sens où on est 4, et puis j'ai pas la difficulté de devoir gérer une classe où ils sont 20 en plus. Donc pour les profs qui sont ici, je suis pas en train de dire c'est quelque chose de facile. Mais dans le contexte en question, ça marche quoi. J'ai hésité à amener des preuves tangibles des choses. Il y a des ordres, j'enregistre hein, à chaque fois les expériences, comme ça je les garde, mais c'est important pour moi. Je voulais pas les amener ici. Les textes, j'ai pas voulu les amener parce que je trouvais que les textes eux-mêmes, qui sortent une prise de notes, ça rendait pas vraiment justice en fait. Parce que l'impression serait donnée sur une espèce de petite prise comme ça, qui rendait pas vraiment qui n'était pas à la hauteur de la richesse des discussions qu'on a en fait. Donc voilà, c'est sur parole, hein, mais je vous garantis que ça marche.
Quand tu dis que ça marche, qu'est-ce qui marche ?
Ben, ce qui marche, c'est premièrement, puisqu'on n'est pas dans une démarche par rapport aux démarches scolaires de compréhension où le prof a une réponse à donner, en fait. Le simple fait déjà qu'on soit en commun, qu'ils acceptent de jouer le jeu et qu'on arrive à discuter, et qu'indépendamment des différences de culture, d'habitude, de tout ce qu'on a, on soit en vrai dialogue, en fait. C'est ça que je recherche au départ, c'est qu'il y a une situation d'incapacitation pour moi qui fasse que, en fait, bah, voilà, je suis dans la aussi. Donc ça marche, et du coup l'envie de chercher ensemble, le fait qu'au final, certes, c'est, ça marche des fois aussi parce que j'aide un peu, j'aiguille, je pose des questions, etc. Mais malgré tout, même avec, bah, évidemment, je pense que si je leur disais de le faire et que j'étais pas là pour les pousser un peu, ça marcherait sans doute pas, ça c'est sûr. Mais le fait qu'il y ait cet encouragement-là et puis le contact qui passe entre nous, fait que parfois, je sais pas, il y a un exemple concret, je le cite assez souvent parce qu'il avait été spectaculaire pour moi. Mais c'était par exemple sur un autre poème sur lequel on a travaillé d'un autre poète contemporain qui s'appelle Philippe Beck, avec un extrait d'un texte où il y avait deux vers qui disaient « Époque font des sommeils toujours ».
Pardon ?«
Époque », c'est un vers, « Époque font des sommeils toujours voilà. ». Et de discussion en discussion, ce qui est sorti d'un des élèves, c'est de dire, au bout d'un moment, on a commencé à parler de la notion d'époque, à un peu enrichir le concept. Et il y en a un qui a dit, bah voilà, ça peut vouloir dire que l'histoire avançant, les époques produisent une amnésie chez les gens sur les époques précédentes. Alors ça me paraissait costaud et à hauteur de ce qu'on fait dans une fac unique, quoi. Et ça, c'est un fait. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est ponctuel, c'est compliqué à mettre en place, mais ça permet ça.
Et il faut une conférence.
De fait, je crois, ouais. Après, je dis pas, c'est pas miraculeux, hein, la potion magique, je dis pas, mais en tout cas, sur le nom, je dis pas qu'après ils vont sortir, puis c'est parfait, ils ont leur bachot 3 ans après. Mais voilà, il y a des choses qui se passent.
Moi, je dis plus confiance certainement, mais aussi plaisir de pouvoir détecter ce qui se cache dans un texte. Ça. Et ce plaisir de travailler sur un texte de français, c'est quelque chose dont ils ont perdu complètement le souvenir, ou est-ce qu'ils l'ont connu une fois ? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quoi. Depuis cette phrase que cite Mathieu, ben, c'est depuis ce jour que tu as décidé d'enregistrer, parce qu'il y a des gens qui ne le croyaient pas, que tu étais capable à ce point-là de réfléchir sur une phrase pendant presque une heure. C'est aussi des expériences qu'ils ont plus, et ça, c'est magique, ça. Mais ce que tu oublies de dire, je trouve, c'est que tu relances un défi, le défi d'être des détectives par rapport à ce texte et de chercher en équipe. C'est une sorte de petite communauté de chercheurs que ça arrive à faire, qui est très fort parce qu'en même temps ils sont en sécurité par rapport à ça. Ça aussi ils avaient perdu, ça rejoint peut-être la confiance. Ça je trouve que c'est très important.
Et ça c'est le séminaire de philosophie en fait. Sauf que les séminaires de philosophie, quand on fait des études de par exemple 5 ans, on en a peut-être deux fois une demi-heure. Parce que la plupart du temps, c'est un prof qui nous parle, au lieu de parler à 50 personnes, à 15 personnes. Mais au fond, l'idée, c'est ça. Et il y a quelqu'un dans la salle ici qui enseigne à l'université, qui pense que la journaliste, un jour, avait le texte en main et dit là, je ne sais pas, aidez-moi. Et ça a produit un truc démentiel.
Non, c'est ça, au final, le fait de prendre le temps, bon, là, on a joué à plusieurs, même tout seul, hein, de jouer avec un texte. De se mettre en bouche, faire des trucs comme ça. Là, on a pris chacun un groupe.
Ah, moi, je l'ai fait ce matin 45 minutes pour être sûr de proposer un truc que j'aurais fait avant.
Ouais, tout seul, c'est marrant. C'est tout seul, c'est marrant aussi, hein, évidemment. Puis, c'est les acteurs qui finalement. Mais généralement, les gens, ils disent que je prends des trucs directs avec. C'est un peu gênant, comme ça. C'est prendre avec un jeu. Là, c'est ça. On prend le temps de jouer à 40. C'est une forme à 40
ans. Bon, bref, donc du coup, à moins qu'il y ait d'autres questions, sinon on continue la discussion.
Vous leur avez pas proposé aussi de prendre des textes classiques et de les découper ?
J'aurais pu. Ah, ah okay. Des textes classiques, dans quelle sorte ?
L'idée de brasser, parce que c'est très fort, je trouve, dans le. Il y
l'impression de brassage, d'extraction de verbe, d'action, et puis le moi et à la fin, au début, etc.
Voilà. Ah, je pourrais prendre d'autres textes plus classiques, d'autres. Après, le pari de départ, c'est de prendre des textes radicalement compréhensibles, c'est ça le truc. En fait, il peut être plus ancien, ça. Mais après, on pourrait transposer à d'autres choses. Ça, c'est dans le cadre de les machins que j'élabore maintenant. Mais après, on pourrait prendre des textes plus simples, faire des choses analogues aussi.
Est-ce qu'ils se mettent à écrire dessus, enfin, il y a une envie, par exemple, d'imprimer une couleur.
Oh, vous voulez dire dans le commentaire
Pas dans le commentaire, mais enfin, de s'exprimer dessus, mais peut-être de sélectionner une partie ou de sélectionner par rapport à texte. De choisir de remodeler quelque part.
Bah, en tout cas, c'est quelque chose que je laisse comme ce non. soir, que je laisse ouvert. Ah, ouais. Après, ils prennent l'opportunité, ouais, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Au début, puis vraiment.
Je remontais par rapport au texte classique qui en fait peut représenter un fondamental problème parce que ça a une syntaxe rigide, pas rigide, elle est directoire. Si tu n'as pas compris que ça va du verbe au sujet, tu ne rentres pas dans le débat. Si on n'est pas tous d'accord sur cette première règle, qui est une règle qui va à l'encontre de ton travail, qui dit moi je ne comprends pas. Si tu dis je comprends la syntaxe de ce texte, qu'empêche d'être avec le groupe déjà.
Oui, tout à fait. Oui, bah, il faut que ce soit honnête. Après, c'est pour ça que c'est vrai que pour que ça marche, c'est pas juste une posture, c'est aussi le choix du texte. C'est aussi déterminé en partie par la constitution du texte. Un texte qui soit aussi, justement, par rapport à ce que tu disais, qui soit aussi fragmentaire, en ce sens, c'est aussi chaotique.
Les conventions de lecture.
Voilà, c'est un bias, tout à fait. Bias, qui déstabilise, c'est pour ça, quoi. Mais il y a des textes plus anciens qui le sont aussi. Moi, enfin, je sais pas si vous mettez des règles classiques, peut-être ça, mais.
Après, pour des élèves en très grande rupture, c'est aussi des élèves qui lisent très très mal, donc il y a la longueur du texte. Et puis ça, c'est l'avantage de choisir la poésie, c'est que c'est quand même un texte
Non, c'est ça, du coup, ça permet vraiment de créer un. Ça permet vraiment de créer. C'est pour ça que ce soir, je vais prendre un extrait plus long aussi. Mais le fait d'avoir un extrait court, ça fait carrément c'est ce terrain de jeu qui est, dans lequel je suis sûr qu'on est tous compris en même temps. C'est bien un terrain de jeu, quoi. Donc, Florent, tu
sais. Alors, si.
Si vous avez envie de répondre soit à certaines des questions qui vous ont été distribuées, soit poser également des questions sur la performance de la première partie de soirée, ou encore un tout petit moment, donc n'hésitez pas à demander ou à poser des questions, ou à donner votre ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti face à ces mots dont certains nous étaient connus, familiers, d'autres pas du tout, face à aussi à ce qui était dit face à ces mots-là. Vous pouvez aussi revenir là-dessus, si vous le souhaitez.
La règle de départ, c'est en fait que j'entends qu'il y a une fois d'intervenant, je connais bien qui portable.
On n'entend rien.
C'était dit au départ, mais donc les intervenants ne connaissaient pas la définition. Ils prenaient un mot et ils essayaient de lire ce qu'ils.
Alors, est-ce que vous pouvez.
On a réuni en une liste commune les mots que les uns ou les autres ne connaissaient pas.
Oui. Mais puisqu'elle ne connaissait pas, c'était vraiment des mots qui posaient problème, dans le sens où ce seraient des mots qu'on aurait tendance à chercher régulièrement et sans être capable de les retenir ou retenir que très vaguement leur sens. Je pense pas que c'était vraiment des mots qu'on connaît pas, mais des mots qu'on n'arrive pas à maîtriser, des mots qui nous échappent toujours.
Mais c'était une liste commune de nos ignorances ou de nos approximations. Et puis ça défilait de manière aléatoire, donc on ne savait pas à l'avance quel mot on devrait définir. Donc on s'arrêtait parfois sur un mot qu'on connaissait, parfois pas. L'idée c'était de. Ben, on est dans une session qui s'appelle philo-fiction, donc c'est plutôt l'élément de fiction qui nous intéressait, de chercher le sens.
D'accord, mais certains de ces mots ont une. Prétendre envoyer une réalité en quelque sorte. Donc la dimension fictionnelle, c'est le sens qui est donné comme fiction ou c'est la définition.
C'est notre ignorance qui nous pousse à la fiction.
Ah oui, d'accord. Donc on peut dire parfois que les définitions étaient peut-être fantaisistes aussi.
Pardon ?
Que les définitions n'étaient pas forcément. C'était des définitions personnelles, fantaisistes.
Ah ben oui, c'était ça l'idée.
C'est ça, d'accord.
Comment on ne connaît pas vraiment le sens.
Oui, on imagine.
En revanche, on est contraint par un dispositif, on doit l'un d'entre nous donner une définition, et on est sommé d'en donner une
avec les moyens du bord, quel que soit. Si on le connaît, tant mieux. Si on le connaît pas, tant pis, on y va quand même.
Ouais, c'est ça.
Donc il y a à la fois l'ignorance et puis la sommation de devoir parler.
Je vois effectivement ce sujet.
Ah, il y a aussi ce
texte
qui disait que tu
les mots qui défilent dans une typographie qui est gothame, c'est Philippe qui l'a choisi, qui est une typographie tout à fait spécifique, hein, certains sont affichés pendant 4 secondes, 5, et d'autres sont affichés pendant 20 secondes. Donc on a, pour les mots pour lesquels on a le temps de se saisir et de se dire, dans une petite, qu'est-ce que je vais donner comme définition, on a 20 secondes pour dire quelque chose qu'on est obligé de dire. Sinon, les deux autres ne parlent plus. Sinon, on avait raté la définition. Donc les mots qui durent longtemps, on doit les définir. Et un d'entre nous est choisi par un petit dispositif qui nous désigne à ce moment-là comme c'est à moi de parler. On ne va pas vous le dire.
Mais qui est aléatoire aussi.
C'est-à-dire que moi, si on me dit c'est pas de la philo, c'est de la fiction, et puis on est trois, et puis quand on donne un mot, on imagine un truc, hein, de la cité au bol. Et puis qu'on fait imaginer qu'est-ce que ça peut être. Rappelle étrangement depuis la philosophie.
Attention, vous faites. Le dispositif là, il est technique, ouais, tout simplement. C'est un truc technique. Les mots qui durent 3-4 secondes, ouais. On les compte, on sait qu'on doit passer. Et tout le monde parmi nous, on fait la fiction que chacun va essayer de le définir. Ah, celui-là, je le sais. Et certains qui s'attardent plus longtemps, nous, on sait. Puisqu'il y a un petit signe quelque part sur l'écran qui désigne l'un ou l'autre d'entre nous, qui à ce moment-là prépare sa définition, enfin c'est bon, il dit quelque chose.
Mais il y a quand même une chose qui est assez marquante, c'est trois voix, trois personnes, ouais. Des mots qui sont plus ou moins communs, difficiles, non, ok, trois registres, médical, littéraire et épistémologie, etc., plutôt des philosophies qui sont. Qui viennent forcément plus ou moins de 3-4 univers, ça dépend. Mais on voit les, un peu les influences.
Trois,
il peut y en avoir plus, hein, d'accord, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se met à la poésie de manière très nette. Et puis, on a vu des jeux où c'est vous qui avez repris une fois le même mot. Une fois vous jouiez, une fois vous avez dit plus sérieusement. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était les hésitations de Cléa. Ce que j'ai trouvé intéressant parce qu'on voyait qu'elle cherchait. Alors qu'il y avait on voit aussi qu'il y a des fois des styles avec. On connaît un mot qu'on nous désigne, certes, et puis on arrive et puis on entre très fort, telle racine. Et puis après, on arrive avec une voix fragile. Et dans la fragilité de la voix, là, j'ai trouvé une performance. À cet endroit-là, un peu.
Voilà, j'ai encore une question. Est-ce que votre vision de l'intraduisible, de l'illisible, de l'incompréhensible a changé après la performance et le petit jeu qu'on a fait, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure? Est-ce que votre attitude par rapport au texte, les termes intraduisibles, peut-être un peu différente aujourd'hui, au débat, en arrivant dans cette salle?
Mais à la fin, il y a quelque chose qui me semblait positif, c'est qu'au-delà de se torturer le cerveau, ça donnait l'occasion aux gens la possibilité de se parler. De se parler, de donner des idées dans tous les sens, et puis bref, de communiquer. Il y avait quelque chose, ça donnait une possibilité de communiquer, de passer tout seul. Si on était chacun comme bien aligné là, personne n'aurait rien dit. On aurait regardé comme les profs devant. Mais là, ça donne l'occasion de faire des échanges, en fait. De s'échanger, de donner, d'échanger des idées. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais c'est quoi ça? C'est ça? Bon, bref. C'était mon impression.
Ce que je trouve intéressant, c'était des dialogues qui surgit justement de la difficulté d'un compréhensible.
D'autant qu'effectivement, on a l'impression que, je ne sais pas si c'est une progression, en tout cas, deux approches différentes de traduisibles ou d'intraduisibles. C'est-à-dire qu'on est parti sur des mots isolés. Et c'est vrai que s'il y a des mots isolés, on a un peu l'illusion, la tentation de se dire il faut trouver un équivalent. Alors, soit un seul mot, hein, si on traduit par exemple d'une langue à l'autre, ou alors une phrase qui expliquerait un peu. Alors qu'après, le fait qu'on ait eu un texte, et que justement, on ait beaucoup de mots, quand certains ont été expliqués dans le petit papier, mais à l'arrière, on n'a même pas besoin de ça. On pouvait très bien commencer à se dire velure, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça ressemble à velure. Enfin, je pense que le fait que les mots soient justement dans un réseau, ce qui est d'ailleurs le cas du dialogue, du discours en général, fait que là, le sens émerge, même s'il n'est pas complet, jamais complet. Par exemple, si je prends votre question, l'illisible, l'implique-t-il ? Forcément, parce que si je vois de l'illisible, c'est que je suppose que derrière, il y a de l'illisible. Si je vois une espèce de tache sur un mur, qui ne ressemble pas à un mot, quelque chose qui ne cherche même pas à savoir ce que c'est. En revanche, si tout d'un coup, je me dis, bah, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui l'a écrit. Là, je commence à me dire, bah, c'est illisible, mais j'essaie de comprendre.
Puis vous êtes dans ce que disait madame, à la démarche de l'enquête, où là, on est mu par quelque chose et on a envie de chercher. Même si on sait qu'il n'y aura pas forcément une réponse univoque.
Il y a des indices, c'est de la constituer.
Puis ce que je trouve aussi très intéressant, ce que vous dites par rapport au passage de mots au texte, en contexte, c'est qu'on passe typiquement de la vision saussurienne, du signe, d'un sens et puis un signifié qui est attaché à la matérialité du mot, à une vision pragmatique où le sens il émerge dans le contexte de communication au moment où les phrases sont prononcées. Donc c'est deux visions très différentes du sens et de la signification. Et là on passe d'un monde à l'autre, d'un univers, linguistique à un autre. Où en pragmatique, on a justement cette liberté de dire que le sens va dépendre de qui est là, de comment il utilise le mot, de comment il communique, à qui il le transmet, et comment la personne le reçoit. Ce qui est différent de lire un dictionnaire avec une série de définitions déjà produites dans le dictionnaire, déjà offertes. Là, on était dans cette acte pragmatique de liberté, création de sens, appliqué. Ce qui est aussi de montrer que la langue est vivante, c'est pas juste un ensemble de signes à apprendre par cœur et puis à transmettre aux élèves, tout à eux aussi, ils créent des nouveaux sens, ils créent la nouvelle langue. Alors, je vous propose qu'on continue la discussion au bar. Mais avant de remercier les intervenants de ce soir, je vous annonce juste la séance de janvier qui sera sur les éco-fictions, donc les textes de fiction qui parlent d'écologie. Il y aura Daniel Deboulet qui présentera sa grande saga sur le nucléaire. Et puis, il y aura le rapport de l'EPFL. Le Postcard World, qui travaille sur des fictions de ville et d'urbanisme sans voiture. Voilà. En janvier, vous avez des petits flyers à l'entrée avec tous les titres de la saison. C'est toujours entrée libre. Et puis, moi, j'aimerais d'abord remercier chaleureusement tous les participants ce soir qui se sont vraiment investis dans cette préparation. Voilà, merci infiniment. Et à bientôt.